Mesdames et messieurs, bonjour. L'émission Patara cette semaine sur Radio Ndekeloka est consacrée à l'actualité politique, sécuritaire et judiciaire en République centrafricaine. En effet, depuis quelques semaines, l'actualité en Centrafrique reste entre autres marquée par la libération du chef du MLC Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale, une décision qui a créé des frustrations au sein de la population centrafricaine. La position de la France par rapport à la présence russe en RCA qui est diversement appréciée et sur la question justement, plusieurs médias en ligne ont fait état de ce que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lors de sa dernière tournée africaine au Congo, au Tchad et à Addis Abeba, n'appréciait pas l'évolution de la situation à RCA, surtout avec l'arrivée d'une mission militaire russe. J'ai évoqué cette question avec le ministre Lavrov lorsque je l'ai vu après Saint-Pétersbourg. Nous sommes tout à fait déterminés à ce que les engagements constitutionnels, électoraux et militaires qui ont présidé à l'arrivée du président Touadéra puissent être respectés sans l'ingérence d'acteurs étrangers. Fin de citation, a martelé Le Drian. Autre problème, celui du dialogue entre les autorités centrafricaines et les groupes armés en préparation par l'Union africaine, mais débouté par la société civile centrafricaine et certaines classes politiques de ce pays. Autant de questions que nous allons aborder dans cette émission d'aujourd'hui, et c'est avec M. Christian Bader, ambassadeur de France en Centrafrique. Monsieur Christian Bader, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Christian Guédébem, porte-parole du parti KNK, parti allé au président Touadéra. Christian Guédébem, bonjour.
Bonjour.
Et monsieur Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile, leader de la société civile. Monsieur Paul Cresson Beninga, bonjour.
Bonjour.
Guy Rémy Amenenti est notre technicien du jour. Je suis Hippolyte Marois à l'animation de ce débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Première question à vous, monsieur l'ambassadeur Christian Bader. L'actualité judiciaire pour lancer ce débat. Le vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses miliciens en Centrafrique, est acquitté et libéré de prison. Les victimes centrafricaines sont entre colère et incompréhension. Comment vous, vous réagissez à cette décision des juges de la CPI?
Moi, la réaction que je peux avoir là-dessus, c'est la réaction qu'ont tous mes amis centrafricains, hein, qu'on côtoie tous les jours et qui sont effectivement très très choqués de cette décision. J'ai même reçu chez moi, il n'y a pas longtemps, un ami français qui était là pendant les exactions et qui m'a dit qu'il a assisté à des choses absolument monstrueuses. Donc il était lui aussi très très choqué de cela. Ceci dit, il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice. Encore une fois, les juges ont pris cette décision. Il y a d'autres décisions qui vont être prises concomitamment. Vous savez qu'il y a un fonds qui existe pour venir en aide aux victimes, ce qui n'est pas vraiment une... C'est une partie de la justice qu'elles attendent. Hein. L'indemnisation va avoir lieu. Évidemment, ils demandaient autre chose. Je dirais que voilà, là, on a un exemple de justice internationale. Elle est ce qu'elle est. Moi, la position que j'ai toujours eue dans tous les pays où j'ai été, c'est de dire que la justice internationale, c'est très bien, mais la justice nationale, si on peut la faire appliquer, c'est mieux. Il me semble que la justice centrafricaine a pris, il n'y a pas si longtemps que ça, des décisions courageuses. Et je crois que c'est un peu ce que les Centrafricains attendent, que le pays soit capable de prendre lui-même les décisions de justice qui s'imposent. Et c'est bien un peu le but de la CPS dont on a choisi. Effectivement, un statut qui est un statut de justice nationale.
Merci pour cette première réaction concernant cette question. Vous, M. Paul Cresson Beninga, en tant qu'acteur de la société civile, vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle quand elle était tombée?
Écoutez, je ne suis pas surpris de cette décision parce que c'est vrai, par respect, on refuse très souvent de ne pas commenter les décisions rendues par les juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales, qu'elles soient de premier degré ou de deuxième degré. Mais dans le contexte centrafricain, je pense qu'il fallait quand même oser. Il y a un argument juridique qui est là et il y a également des arguments politiques qui sont là. Du point de vue juridique, il faut avoir le courage de le dire. Ce dossier, dès le départ, les procédures sont biaisées. Les procédures sont biaisées dans la mesure où Bemba, de mon point de vue, n'est pas l'unique acteur dans cette affaire. Et lorsqu'on a décidé de poursuivre Bemba, depuis les juridictions de premier degré, sa défense ne faisait que clamer son innocence, non pas parce qu'elle ne reconnaît pas les torts des Banyamulenge, mais sa défense estime que Bemba avait répondu à l'appel d'un président qui était légitime à l'époque. Et aujourd'hui, vous voyez que les co-auteurs de ces crimes qui sont imprescriptibles sont libres et ne sont pas inquiétés. Et à partir de ce moment, les arguments du point de vue juridique laissent puisse convaincre un tout petit peu ceux qui sont avisés. Mais ce qu'il faut dire aux Centrafricains, et c'est extrêmement important sur la question des victimes, les victimes ne sont pas abandonnées. Ça, c'est très important à le souligner parce que lorsque la décision a été rendue, l'impression qui se dégage, c'est que les victimes sont abandonnées. Non, les victimes ne sont pas abandonnées. Que ce soit au niveau des juridictions de premier degré, que ce soit au niveau des juridictions de deuxième degré, notamment au niveau de l'appel où Bemba a été libéré, les victimes ont été reconnus dans leurs droits. Ça veut dire que ce que les victimes ont perdu, et c'est dommage, c'est la réparation du point de vue moral. Parce que pour ces victimes, le fait de voir Bemba condamné, c'est une forme de réparation morale. Mais les victimes n'ont pas perdu l'autre forme de réparation qui est une réparation matérielle. À partir de ce moment-là, il relève du génie centrafricain de mettre en place un système de plaidoyer pour pouvoir drainer les fonds dans le cadre du fonds d'indemnisation pour satisfaire les victimes. Et je finis par là parce que cette réparation morale, elle n'est pas totalement perdue. Dans la mesure où ces crimes-là sont imprescriptibles. Et ces co-auteurs-là sont centrafricains et d'autres sont encore en vie. Alors, pour qu'il y ait satisfaction morale, même à petite échelle, parce qu'à défaut du cheval, en grippe l'âne, je pense qu'on peut activer la CPS. Même si je ne crois pas trop à la CPS, on peut toutefois activer nos juridictions du point de vue national et on peut obtenir réparation du point de vue moral.
Oui, tout à l'heure, vous avez développé cette thèse selon laquelle l'affaire a été biaisée au départ. Selon vous, à qui incombe la responsabilité?
À qui incombe la responsabilité? La responsabilité incombe au procureur qui, malheureusement, à commenter cette décision. C'est presque inédit lorsqu'une juridiction de deuxième degré rend son jugement et que la responsable en charge de la juridiction de premier degré décide de commenter. Ça peut prêter à équivoque, ça peut laisser penser qu'il y a des couacs dans cette affaire, il y a des malentendus. Et c'est à ce niveau-là que peuvent intervenir les thèses politiques qui laissent penser qu'effectivement Bemba a été libéré à dessein pour pouvoir satisfaire les intérêts de ceux qui pensent qu'il va falloir dégager Kabila. Cette thèse, il ne faut pas la négliger non plus.
La thèse politique a été avancée. D'aucuns disent qu'il s'agit d'une décision politique. Est-ce que c'est fondé selon vous, M. Christian Guédébem?
Mais moi, je crois que déjà d'emblée, on ne peut pas écarter ce type d'argument, même s'il faut éviter de verser dans la théorie du complot, où on voit le mal partout. Mais moi, je voudrais déjà faire observer quelque chose, parce que je crois qu'il y a une erreur qui a été avancée ici. Les victimes n'auront pas réparation, pas réparation matérielle. Et c'est bien précis, c'est bien expliqué. Le fonds d'indemnisation ne peut être activé en absence de condamnation de Jean-Pierre Bemba que pour un accompagnement, pas pour l'indemnisation. D'ailleurs, la vice-présidente du fonds s'est exprimée sur les ondes internationales. Elle a fait de bonnes précisions là-dessus, que malheureusement, ils ne peuvent pas indemniser les victimes, mais ils peuvent uniquement faire un accompagnement. Parce que même quand vous écoutez les sommes avancées, on parle d'un million d'euros, mais un million d'euros pour plus de 5000 victimes, ça fait moins de 200 euros par personne. Ce serait une bien maigre indemnisation. Non, le mécanisme, ce n'est plus celui-là.
Mais ce n'est pas bouclé, ça, c'est non, juste des fonds disponibles.
Attention, il faut bien comprendre le mécanisme, en tout cas, si vous obtenez ou si les victimes obtiennent, ce ne sera pas par ce mécanisme-là. Ce sera par un autre mécanisme, parce que la Cour pénale internationale, elle a aussi son mode de fonctionnement. Pour qu'elle puisse engager le mécanisme d'indemnisation, il aurait fallu qu'il y ait condamnation. Et étant donné qu'il n'y a pas condamnation, mais ils ne peuvent que se tenir à leur mode de fonctionnement, se tenir qu'à leur texte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on ne peut pas totalement écarter la question politique dans ce verdict? Ouais, nous, les Africains, on a toujours tendance à voir la main ou les ingérences étrangères dans la manière dont nos États sont gérés. Souvenez-vous, lorsque Jean-Pierre Bemba a été interpellé, c'était dans quel contexte? D'abord, c'était une plainte contre X qui avait été déposée par le gouvernement centrafricain à l'époque. Ce n'est pas une plainte dirigée contre Jean-Pierre Bemba, c'est une plainte contre X. Et c'est le bureau du procureur, à l'époque, je crois que c'était Luis Campo Moreno, qui a décidé de restreindre le champ de l'investigation uniquement à la personne de Jean-Pierre Bemba. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, en Centrafrique, il y a des gens, dont certains, au niveau de l'appareil militaire ou au niveau du jeu des acteurs politiques, qui étaient aussi aux affaires à cette époque, qui étaient en première ligne, qui ont participé à cela et qui n'ont pas fait l'objet de poursuites. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le contexte, c'était un contexte post-électoral en RDC, où, suite à des affrontements post-électoraux, Bemba a dû fuir d'abord, dans un premier temps, la RDC parce qu'il était menacé d'arrestation et de poursuite là-bas pour les affrontements entre sa milice du MLC et les forces gouvernementales pro-Kabila. Il s'est retrouvé en Europe. On dira presque que son arrestation, elle était bienvenue pour participer à la stabilisation de la RDC. Et qu'aujourd'hui, on est en fin de cycle, on assiste à une forme de pression tout azimut pour occasionner ou pour faciliter le départ du pouvoir du président Kabila. Bon, ben, on a un Tshisekedi décédé dont le fils ne fait pas le poids. On a un Moïse Katumbi qui a peur de rentrer en RDC et qui finalement n'est peut-être pas l'opposant que les gens attendaient. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui a lâché le poids lourd dans les jambes, de manière à ce que Jean-Pierre Bemba vienne troubler le jeu politique en RDC. Et moi, je trouve dommage que l'intérêt des victimes centrafricaines aujourd'hui ne soit pas au centre des préoccupations et que plutôt ce soit des questions de géopolitique qui, peut-être, demain, vous vous rendrez compte qu'elles auront encore une incidence sur nous. Parce que Jean-Pierre Bemba, il est originaire de la région de l'Équateur. S'il advenait, ce que je ne souhaite pas, mais s'il advenait qu'il devienne un problème pour Kinshasa, il viendrait s'adosser à toute la région du fleuve de la République centrafricaine. On sait qu'à une époque, le carburant, les munitions autres traversaient par Lubangui pour l'aider à déstabiliser Kinshasa. Il faudrait que cette action qui a été posée n'ait pas de répercussions négatives sur nous.
Merci Christian Guenebem. Monsieur Christian Bader, est-ce que vous entendez cette thèse politique? Parce que, oui, quand on voit un peu les enchaînements des choses, hein, les élections s'approchent en RDC Congo et l'Assemblée générale du parti de Monsieur Bemba, le MLC aussi, se pointe à l'horizon, c'est programmé pour le mois de juillet. Est-ce que tous ces enchaînements ne confirment pas justement cette hypothèse-là?
Je ne peux pas le dire. Moi, j'écoute ce débat qui est tout à fait passionnant, mais qui concerne les Centrafricains, qui concerne les gens qui ont été effectivement victimes. Moi, je ne voudrais pas du tout entrer dans ce débat pour dire si c'est politique ou pas, et encore moins dans la politique intérieure d'un pays voisin que je ne suis pas. Mais moi, l'intérêt qu'il y a maintenant, effectivement, il ne s'agit que de cela, ce sont les victimes, il y en a beaucoup. Il faut espérer que ce fonds d'indemnisation puisse quand même être mobilisé, je veux dire, il le sera à un moment donné. C'est vrai que ça ne répondra pas aux attentes, et je crois que le calcul ne consiste pas à le diviser par le nombre de victimes, mais je crois que l'idée, c'est de faire autre chose. Mais ça aussi, on verra comment ça se développera. Moi, je crois que c'est ça le problème. Il y a des crimes qui ont été commis, après, il appartient aux historiens de juger cela, même si ça n'est pas encore vraiment de l'histoire, parce que c'est extrêmement récent. Maintenant, les implications politiques qui peuvent en découler et pourquoi ça a été fait, je sais que la lecture qui est faite, il faut le rappeler quand même, c'est que les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de lien établi entre les crimes commis et leur auteur qui en était accusé. Bon, je dirais que c'est une procédure juridique qu'on connaît bien, qui est un peu simple, parce qu'on sait très bien qui fait quoi, mais en même temps, il y a cet aspect qui est juridique et qui est très très court et qui n'est justement pas une démarche politique et qui a permis justement à Bemba de s'en tirer cette fois.
Ok, Monsieur Paul Cresson, tout à l'heure dans votre développement, vous avez lâché très rapidement que vous avez très peu de confiance en la CPS. Est-ce que c'est ce monde opératoire de la justice internationale que vous amène à perdre confiance en cette institution-là ? Elle-même, elle est hybride, elle est à la fois nationale et internationale. Vous pensez que voilà, c'est pas vraiment sûr qu'on arrive à mettre la main sur les bourreaux des Centrafricains et ceux-là qui courent aujourd'hui ?
Oui, bien, Hippolyte, avec ta permission, je voudrais très vite revenir sur ce que Christian a dit. Nguenebem, il y a un fait, et sur ce point on n'est pas en désaccord, les victimes sont reconnues dans leurs droits. La question des... Moi je dis, il faut faire appel au génie centrafricain pour faire une sorte de plaidoyer, de telle sorte que ces victimes-là obtiennent réparation, ne serait-ce que du point de vue matériel. Le fonds d'indemnisation, oui, on est d'accord, le mécanisme a été présenté par les responsables, mais il faut qu'on aille au-delà de ces fonds d'indemnisation, et je crois au génie centrafricain. Nous pouvons faire quelque chose de telle sorte qu'il ne faut pas promettre, mais il faut faire des campagnes de plaidoyer, de lobbying, de leadership permettant effectivement de drainer d'autres fonds pour réparer ce préjudice-là. Je reviens à votre question. Je ne crois pas trop à la CPS. Pourquoi ? La CPS, vous l'avez si bien dit ici, c'est une institution hybride dans la mesure où elle est à cheval entre les juridictions internationales et les juridictions nationales. Seulement, quand vous voyez la CPS dans sa forme, la CPS a un mandat de 5 ans renouvelable. Ça, c'est dingue. On le sait. Quand vous voyez nos partenaires au développement qui soutiennent la CPS, sont ceux qui sont impliqués également dans la résolution de ce conflit dans d'autres domaines. Le risque que court la CPS, c'est qu'à un moment donné, ils vont dire « on est fatigué de cette affaire-là, allez-vous-en ». Et si la CPS plie bagage au bout de 10 ans, on sait que pour juger un criminel, parfois ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 15 ans. J'ai comme impression qu'il y a de gros poissons dans ce pays qui doivent passer devant la CPS. Et je crains que la CPS dispose de moyens capables de pouvoir juger tous ces criminels. En revanche, si on renforce les capacités de nos juridictions sur le plan national, dans la mesure où ces juridictions ont eu par le passé à faire leurs preuves dans le cadre de ces crimes qui, ma foi, sont imprescriptibles. Ça veut dire des crimes presque pareils à ce qu'on reproche aujourd'hui à ceux qui, bien évidemment, jouissent d'une présomption d'innocence. Je pense qu'avec une politique de renforcement de capacité de nos juridictions, nous pouvons faire mieux que la CPS. C'est vrai que c'est un jugement qui est prématuré dans la mesure où on n'a pas encore vu la CPS à l'œuvre, mais je suis de ceux qui pensent qu'il va falloir privilégier les initiatives nationales qu'internationales.
Pourtant, les démarches ont assez évolué déjà. Et est-ce qu'il n'est pas assez tard pour faire marche arrière?
Ah non, il n'est jamais tard de faire bien. Si on estime qu'on court le risque, effectivement, d'aller droit au mur avec la CPS, je n'ai pas dit que c'est forcément le cas, mais il faut rectifier le tir.
Je voudrais bien avoir le point de vue de Christian Guélébem sur ce développement fait par...
Sur ce développement, je vais répondre, mais je voudrais aussi faire une toute petite précision. Vous savez que la décision rendue par la CPI, elle pose un précédent dangereux. Elle pose le précédent selon lequel le principe de la responsabilité des personnes que l'on a sous sa garde ne peut plus être établi de manière systématique lorsqu'il s'agit d'un chef de milice et de ses hommes. Aujourd'hui, on a dit...
C'est trop facile.
Oui, mais c'est ça. Ça fait jurisprudence aujourd'hui. Bemba, en 2002-2003, il était chef d'une milice armée qui est venue en Centrafrique, qui a commis des crimes et des exactions. On nous a fait dire que lui, il n'était pas là, il n'était pas parmi eux, il n'avait pas de commandement direct sur ses troupes. Ce qui, à mon souvenir, n'est pas exact, parce que je me souviens qu'en 2001, en 2002 et en 2003, il venait à Bangui, Jean-Pierre Bemba. Moi, je m'en souviens, j'étais encore à Bangui à cette époque, il venait. Mais on nous fait comprendre aujourd'hui que le principe de la responsabilité des personnes qu'on a sous sa garde n'est plus automatiquement établi. Ça veut dire que demain, sur la base de ce précédent, d'autres cas peuvent encore intervenir. Vous savez qu'aujourd'hui, en Centrafrique, nous avons beaucoup de groupes armés. Et demain, pour certains de ces groupes armés dont les commanditaires pourraient être identifiés et se situer à l'extérieur, ce même principe de la responsabilité des personnes que l'on a sous sa garde pourrait ne pas leur être appliqué. Je le dis, je voulais le relever, c'est un principe dangereux parce que même s'il s'agit de la justice internationale, la CPS, c'est une CPI en miniature. Elle ne peut pas ignorer cette jurisprudence. Ça, c'est ce que je voulais relever.
Ça dit qu'il me rejoint. Hein.
Ensuite, mais j'ai dit que j'allais répondre.
Il ne faut pas aller trop vite en besogne.
J'ai dit que j'allais trop vite en
besogne. Ça dit qu'il me rejoint quelque part.
La Cour pénale spéciale, moi, de tout temps, elle m'a fait peur. D'abord, vous savez, son champ d'investigation, initialement, c'était le démarrage de la crise le 10 décembre 2012. Pendant les débats au CNT qui ont amené à l'adoption de la loi portant création de la Cour pénale spéciale, on a étendu son champ de compétences à 2003. Et à cette époque déjà, moi et mon parti, nous nous sommes élevés pour dire « Attention, l'un des principaux caractères de la loi, c'est qu'elle doit être impersonnelle. On ne peut pas créer une cour pour juger François Bozizé. » Parce que quand on fait référence à l'année 2003, on fait référence au 15 mars, on fait référence aux événements qui ont conduit à la prise de pouvoir par Bozizé. Et à cette époque, j'avais dit « Mais dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on va se limiter à 2003. Parce que nous pouvons aussi aller au-delà. Il y a beaucoup de crimes qui ont été commis en Centrafrique et même avant cette date et pour lesquels aujourd'hui donc les victimes ne peuvent pas demander réparation. Je donne un exemple simple. Nous savons ce qui s'est passé, les tueries de Kembe. Nous savons qu'en 1981-1982, Paoua a été brûlé par des éléments de l'armée. Nous savons qu'il y a eu un tas de massacres. Nous savons également qu'un colonel de l'armée, à l'époque préfet d'Oloan Pende, je parle du colonel Ruot, a été assassiné. Ça a été des choses qui ont été commanditées sur le plan politique. Alors, pourquoi vouloir spécifiquement régler le compte de quelqu'un? Donc déjà, quand on a créé la Cour pénale spéciale, le Kwanakwa, et notamment par ma voix en tant que porte-parole, nous avions émis des réserves sur le champ de compétences qui avait été délimité, parce que la crise qui a amené à la création de la CPS, c'est la crise que nous vivons. Mais nous sommes allés au-delà de cette délimitation dans le temps pour aller toucher à d'autres affaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, la Cour pénale spéciale, elle pose un problème. C'est qu'on dit qu'elle doit juger de tous les crimes commis en Centrafrique depuis 2003.
Ça veut dire que... C'est grave, hein.
Oui, mais ça veut dire qu'elle fait passer en pure perte la loi d'amnistie de 2008. Parce qu'en 2008, il y a eu une loi d'amnistie qui a été votée après le dialogue politique inclusif. Cette loi d'amnistie de 2008 a même cité nommément des personnalités politiques de ce pays, dont le président Patacepé, à son âme, il est décédé. Mais Abdoulaye Miskine, il est cité nommément pour les crimes graves commis par sa rébellion. Jean-Jacques de Mafout est cité nommément, notamment pour les crimes commis par l'APRD, qui s'est jamais caché d'avoir commandé. Vous comprenez bien ici que cette question de la CPS là va poser des problèmes. Et maintenant, quant à l'opérationnalité, ça prend déjà beaucoup de temps, ça demande de la mobilisation d'énormément de moyens. Et quand vous allez vous rendre compte que les temps d'investigation, parce que déjà l'Assemblée nationale vient à peine d'adopter le règlement sur les modes de procédure, oui, de preuve, etc.
Ça a mis beaucoup de temps. Hein.
Le temps que les enquêtes vont prendre, déjà, le premier mandat de 5 ans sera écoulé. On va devoir le renouveler pour pouvoir aller au premier procès.
Du coup, vous croyez à l'opérationnalisation de cette juridiction?
À mon humble avis, on aurait mieux fait de renforcer la justice nationale. Parce que la Cour pénale spéciale risque bien d'être un bébé mort-né, parce qu'elle va mobiliser beaucoup de moyens, mobiliser beaucoup d'énergie. Mais le temps qu'on arrive à ce qu'elle puisse prononcer des jugements, je vous assure que... bon, on n'est pas encore arrivé.
Alors, merci. Je crois que nous allons passer de la justice à la question sécurité. Aujourd'hui, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont opposés jeudi dernier aux Nations Unies à une demande d'importation d'armes chinoises en République centrafricaine soumise depuis 2013 à un embargo. Une requête pourtant soutenue par la MINUSCA. Aujourd'hui, nous avons un représentant de l'État français à ce débat. Qu'est-ce qui motiverait cette prise de position?
Encore une fois, sur l'embargo, il faut être très très clair. Donc, l'embargo a d'ailleurs été demandé, vous le savez tous, par les autorités centrafricaines de l'époque, qui ont changé. Ça, c'est la première chose à dire. Ce n'est pas un embargo qui était imposé. La levée de l'embargo, elle est déclarative. Donc, on fait des demandes, on ne s'est pas opposé à cette livraison, on a demandé des précisions. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui ne va pas avoir lieu. Il y a des doutes qui ont été émis, des précisions qui ont été demandées. On peut parler tout de suite, effectivement, des éléments d'armes anti-aériennes. Bon, ça passera difficilement parce qu'on ne voit pas comment la République centrafricaine peut être attaquée par les airs. Donc c'est des demandes très très difficiles à traiter. Je crois qu'au-delà de cela, moi ça fait 2 ans que je suis ici, ça fait 2 ans que j'entends parler de l'embargo. L'embargo génocidaire décidé par les ennemis de la République centrafricaine. Je crois que là aussi, il faut être vraiment sérieux. L'embargo, on le sait tous, il faut entendre les gens qui disent, et ils ont parfaitement raison de dire qu'un embargo est compliqué à mettre en œuvre quand les gens contre lesquels cet embargo a été fait sont capables, eux, d'importer des armes comme ils le veulent. En gros, l'embargo frappe les autorités légitimes de la RCA, alors qu'ils ne frappent pas du tout les groupes armés qui se procurent des armes et des munitions avec beaucoup de facilité. Ce que je voudrais dire à ce stade, c'est en dehors de la demande de la requête qui concerne la livraison d'armes chinoises qui aura lieu, il y a des objections, les autorités centrafricaines vont y répondre et la livraison aura lieu même si elle est partielle. C'est pas un problème. Le problème, c'est la question de l'embargo. Là aussi, j'ai entendu beaucoup de centrafricains au plus haut niveau me dire la demande a été faite. Bien non, elle n'a pas été faite. Je peux le dire. Un embargo, c'est pas une vache sacrée. C'est pas un système qui est appelé à durer éternellement, c'est une précaution qu'on a prise. Évidemment, quand vous entrez dans un système d'embargo, dans un système très contraignant où chaque fois que vous faites une demande, vous êtes obligé de fournir toute une série de renseignements et dès qu'il manque quelque chose, les experts, je dis bien les experts, pas les politiques, vous bloquent en disant bah, il y a un problème. Moi, j'ai toujours dit que cette histoire d'embargo, encore une fois, je répète, c'est pas une vache sacrée, il faut qu'on commence à en parler très sérieusement. Il y a là aussi des moyens pour les autorités centrafricaines de demander la levée, il suffit pas de le demander et il suffit pas de venir voir par exemple l'ambassadeur de France en disant c'est pas bien, c'est pas du tout comme ça qu'on fait, il y a une procédure dont je vous dis pas qu'elle est simple, mais il faut commencer à dire voilà pourquoi nous estimons au jour d'aujourd'hui qu'il est temps de lever l'embargo parce que ça nous pose un problème, parce qu'encore une fois nous avons des difficultés pour nous armer, nous procurer des armes et des munitions dont les FAQA et les FSI ont besoin, il suffit de l'expliquer et il faut rappeler à cette occasion qu'effectivement nous n'étions pas censés avoir un système ici où l'importation d'armes par les groupes qu'on vient de mentionner soit aussi simple. Et il eût été beaucoup mieux que les frontières puissent être gardées, ça n'a pas été le cas et on sait très bien que tous ces groupes se procurent des armes en permanence, ce qui, je le dis en tant qu'ambassadeur de France, pose un problème. Mais encore une fois, là, c'est une question, je dirais, très simple. On en a parlé pour la décision de justice, c'est la même chose. Les experts, eux, continueront à appliquer les règlements. Ils le feront en tant qu'experts. Il appartient aux politiques, et notamment aux politiques centrafricains, d'expliquer pourquoi cet embargo ne leur convient plus. Je pense que les pays comme le mien les écouteront et je pense qu'au bout d'un moment, on sera obligé de prendre une décision. Mais encore une fois, je le répète, ça n'est pas simplement en se plaignant d'un embargo ou en disant que ça pose des problèmes qu'on va régler l'affaire. Il y a une procédure également pour le lever.
Mais il y a quand même cette démarche entreprise par le ministère centrafricain de la Défense qui a formulé le plaidoyer justement pour la levée de cet embargo. Hein, et cela, nous l'avons également lu dans la presse internationale également en a fait écho. Et aujourd'hui, tout se passe comme si cela n'est entendu de personne, même si les pays amis comme voilà.
Non, mais c'est entendu. C'est encore une fois, c'est une démarche. Moi, je ne suis pas le spécialiste de la levée. C'est fait à New York. Moi, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises à mon niveau à quel point l'embargo posait des problèmes. C'est un embargo, d'ailleurs, je rappelle qu'il nous a posé des problèmes à nous. Hein, je vous rappelle que nous étions prêts à livrer des armes à la République centrafricaine, que nous avons été empêchés de le faire parce qu'il y avait un embargo qui, lui, ne frappait pas la Centrafrique, mais frappait les armes en provenance de Somalie. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, on a affaire, là aussi, à des experts. Et sur un sujet aussi sensible, je dirais que l'avis des experts, il est tout à fait bienvenu, il est respectable, mais qu'au bout d'un moment, nous devons impérativement élever cela à un débat politique. Effectivement, le ministère des Affaires étrangères centrafricain a commencé les démarches. Il faut qu'il le poursuive et il faut que ces démarches, je dirais, soient reprises au plus haut niveau. Parfois, les choses sont un peu compliquées. On est dans une situation de blocage, mais je veux dire, il faut revenir à la charge et dire voilà comment la situation a évolué. Voilà les bataillons de FACA qui sont formés. Voilà les FSI qui sont formés. Nous n'avons donc aucune raison de les lâcher dans la nature, comme ça a été le cas à plusieurs reprises dans les mois passés, sans armes, sans munitions et donc incapables de faire face à la menace que représentent les groupes criminels dans ce pays.
Alors, nous allons voir si nos politiques sont prêts à porter haut ce débat. Monsieur Christian Guinebem, comme la France et les États-Unis ont fait remarquer qu'il n'y a pas de menace d'attaque aérienne contre la République centrafricaine pouvant justifier l'acquisition d'armes antiaériennes, le Royaume-Uni, de son côté, s'est inquiété du transit par le Cameroun des cargaisons d'armes concernées sans escorte jusqu'à la frontière centrafricaine. Alors, vous, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ces raisons suffisantes ?
Vous savez, je ne suis pas un technicien de l'embargo, je ne suis pas un expert. Moi, je suis un
aucun d'entre nous. Hein.
Je suis un politique centrafricain. À plusieurs reprises, à ce micro, sur ce plateau, et même lors d'échanges que nous avons eus avec M. l'ambassadeur, j'ai exprimé le fait que, pour moi, un, cet embargo ne répondait plus au contexte actuel, et deux, non seulement il fallait le lever le plus rapidement possible, mais que nous avions aussi besoin de l'aide des pays amis pour que, dans le temps qui nous sépare de la levée de l'embargo, nous puissions mettre nos forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions pour travailler. Parlons de ce veto à la livraison des armes chinoises. Oui, de toute façon, c'est clair, les armes vont être livrées. Ça va prendre plus de temps que ce que nous voulions, mais ça va être livré. J'ajoute aussi que, en plus du soutien de la MINUSCA à cette demande de levée partielle d'embargo, il y a aussi la mission de l'Union européenne, UTM, qui aussi soutient cette demande de levée partielle. Mais là où le bas blesse, et là, moi, en tant que politique, je m'adresse à M. l'ambassadeur, parce que disent les Centrafricains ? Les Centrafricains disent « Ah, tiens, vous voyez, encore la France qui nous empêche de réarmer nos forces de défense et de sécurité, encore la France qui nous empêche de recouvrer la plénitude de notre capacité de coercition sur les groupes armés. » Ce que nous, on aurait voulu, ou ce que moi, je voudrais, en tant qu'homme politique, et ça, je le dis en espérant que ça fera écho quelque part, c'est quand on nous dit, par exemple, « Les armes sont livrées à Douala », on s'interroge sur la sécurité entre Douala et la livraison dans les arsenaux nationaux ici à Bangui. Proposez-nous de nous escorter les armes, si vous êtes inquiet de savoir par où elles vont transiter. Quand on nous dit, oui, il n'y a pas de menace aérienne, ça c'est vite dit. Moi je me souviens, en 2006, quand un avion en provenance du Soudan avait atterri à quelques encablures de Birao et avait fait déposer des armes, des munitions et des hommes, et qu'après, s'est constitué l'UFDR qui a tenté de marcher sur Bangui. Et d'ailleurs, à cette époque, je me souviens, le président Chirac avait ordonné une frappe sur Birao. Donc comprenez bien que même aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri de voir débarquer un cargo quelque part sur une piste dans la brousse. On devrait être en mesure de pouvoir l'abattre parce que les avions non identifiés qui amènent des cargaisons non identifiées, mais ils n'ont pas survolé le territoire centrafricain. Mais même qu'à cela ne tienne, j'entends que les groupes armés n'ont pas d'hélicoptères, que les groupes armés n'ont pas de chasseurs, mais qu'il en soit ainsi. Nous allons faire en sorte que cette demande d'armes antiaériennes soit pour le moment retardée et dissocié du lot de ce dont nous avons besoin. Mais nous voudrions, et ça je le dis parce que c'est le sentiment. Récemment, lorsque le président du groupe d'amitié France-Centrafrique était à Bangui et que nous avions évoqué avec lui la question du sentiment anti-français, moi je lui disais, ce sentiment anti-français, il vient aussi de beaucoup d'incompréhension. Il vient aussi de ce que certaines actions qui sont posées soit d'un côté, soit de l'autre, ne sont pas bien perçues ou en tout cas ne sont pas perçues dans l'idée dans laquelle elles ont été posées. Aujourd'hui, moi je loue le fait que vous soyez là pour cette démarche d'explication, mais il faudrait aussi que ce soit quelque chose de plus habituel, cet échange direct et pour lequel les Centrafricains sont à l'écoute, entre vous qui représentez la France. Qui ?
Ceci dit, on va être très franc, hein, s'il fallait que je passe mon temps à démonter les accusations qui sont montées contre la France, je ne ferais que ça 24 heures sur 24.
Vous, parfois, vous ne pouvez pas passer
parfois,
votre temps à faire ça.
Je respire un petit peu et puis je laisse faire un peu les choses le Centrafricain est intelligent, mais là aussi...
Ce n'est pas ce qu'on demande.
Non,
c'est pas ce qu'on demande.
Sur ce que vous dites, moi je suis tout à fait d'accord et sur cette histoire d'embargo, je pense que l'explication est nécessaire. Il y a effectivement des critiques qui sont formulées contre la France, on le lit tous les jours dans les journaux, on l'entend dans la rue. J'essaie toujours de faire une différence entre des critiques qui sont absurdes et des critiques qui sont justifiées. toute politique menée par un pays, y compris la France, peut être critiquée. C'est pas moi qui le ferai, certainement pas. Mais je dirais qu'il y a des critiques qui sont acceptables et d'autres qui reposent sur des absurdités. Effectivement, vous vous souvenez, à l'époque où on s'était vu avec justement le député Gassiou, il était question que nous apportions notre soutien au groupe armé. On était même en train de soutenir force au PK5. Alors là, vous dites, est-ce que vous laissez passer ou est-ce que vous intervenez ? Nous sommes intervenus non seulement par la parole, mais vous vous souvenez que le 13 mai, il y a eu un survol par deux avions français, je veux dire, des avions de guerre français. Et le message était très clair, c'était de dire, écoutez, on ne peut pas vous donner une meilleure preuve qu'on ne soutient pas les groupes armés. Et nous étions à ce moment-là, ce n'était pas moi qui étais au téléphone, en train de parler à Abdoulaye Hussein pour lui dire, nous ne sommes pas avec vous, mais bel et bien contre vous.
Et justement, cette action me permet de rebondir pour répéter ce que je vous ai dit et ce que j'ai dit.
On l'a fait, on était tranquille parce qu'on n'avait pas d'armement anti-aérien, donc on était tranquille pour faire le survol.
Justement, c'est le lieu de vous dire que vous avez, pas vous en tant qu'ambassadeur, mais vous en tant que France, en tant que grande puissance, vous avez les moyens d'arrêter ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas, ou en tout cas ce que le Centrafricain lambda ne comprend pas, c'est l'impression que nous avons que vous laissez faire. Que
ça, on peut en reparler plus tard. Parce que
ce point précis, ma question reste quand même posée parce que tout à l'heure, c'est clair qu'aujourd'hui, on attend que les politiques prennent la question de l'embargo.
Mais cette question,
quand même à convoquer soit un forum.
Cette question ne relève pas d'un forum des partis politiques. Cette question, c'est une question des Nations Unies. C'est une question des États. C'est une question que le gouvernement centrafricain doit prendre à bras le corps. Je suppose. Je ne siège pas au gouvernement, mais je suppose que cette question ne les laisse pas insensibles. Et j'espère, en tout cas, que des démarches sont entreprises dans ce sens. Pour ce qui est de notre responsabilité en tant qu'acteur politique, que ce soit à travers votre micro, que ce soit à travers les différentes réunions, les audiences avec le chef de l'État, avec les principaux responsables du gouvernement, nous ne manquons pas de revenir sur la question de l'embargo. Parce que le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut pas former des militaires, ou en tout cas les réformer et les envoyer, comme l'a dit l'ambassadeur, dans la nature, sans armes, sans munitions, face à des groupes armés ou à des groupes de bandes.
Et qui, eux, sont très bien armés. Hein.
Alors, oui, sur la question du côté de la société civile, hein, M. Paul Christian Bininga, comment vous avez...
Beaucoup de choses ont été dites ici. Beaucoup de choses ont été dites. Non, ça va, je suis très calme et très précis. Hein. L'ambassadeur a dit des choses extrêmement intéressantes et je crois qu'il va falloir que je revienne un peu dessus. Il a dit que la procédure de l'embargo a été lancée par les autorités centrafricaines.
La demande a été formulée.
Oui, c'est ce que vous avez dit. La demande a été formulée par l'autorité centrafricaine. Mais je voudrais vous dire ceci, ce n'est pas parce que la demande a été formulé par l'État centrafricain que l'embargo doit être une colle pour nous. L'embargo aujourd'hui est véritablement une colle pour nous. Et je veux vous dire une chose. Vous avez dit la France, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont opposés, mais ça va se faire. Exception faite des armes.
Je n'ai pas dit qu'on s'est opposé, j'ai dit qu'on avait eu des objections.
Oui, vous avez eu des objections, mais c'est une marque d'opposition. On va pas jouer sur le mot. C'est une marque d'opposition.
Ça va se faire.
Maintenant, vous avez dit il va falloir écarter les armes de défense aérienne. C'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une menace aérienne qu'on ne doit pas prévenir. Nous sommes un État en reconstruction. À un moment donné, il faut qu'on prévienne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ces menaces-là aujourd'hui. Et Christian Guinemema l'a si bien souligné, il y a des menaces. Et vous avez dit quelque chose d'extrêmement dangereux, je vous le dis. Vous avez dit, nous avons fait ce survol et nous l'avons fait tranquillement parce que, vous l'avez dit, c'est une boutade.
C'était une boutade, absolument. J'espère que vous l'avez pris comme ça. Ouais.
Mais c'est dangereux. C'est dangereux dans la mesure où nous voulons avoir le contrôle aérien.
Oui, mais
de notre espace.
Permettez-moi de vous dire une chose. Si vous commencez à vouloir lever l'embargo en exigeant d'avoir des armes anti-aériennes, je dirais que c'est une question de tactique et que ce n'est pas la meilleure tactique.
Oui, nous n'avons pas voulu. L'occasion nous a été offerte.
Voilà, mais vous avez
nous
des
facas. Nous n'avons pas voulu. L'occasion nous a été offerte et nous l'avons saisi.
Vous avez des facas à former. Vous avez des facas et des FSI à armer, à équiper. Donc, je dirais que la bonne politique et la bonne technique, ce serait de commencer par ne pas parler d'armement anti-aérien parce que ça aura pour effet de braquer les gens. Les gens vont avoir beau jeu de dire oui, mais démontrez-nous la menace. Même si je suis d'accord avec vous, vous aurez du mal à le démontrer. Alors que vous n'aurez pas de mal à démontrer que les forces armées centrafricaines ont besoin d'être armées d'armes de poing, d'armes de petit calibre, de munitions. C'est le début. Et ensuite, on peut arriver à tout le reste. Ça, je n'objecte pas. Mais d'aborder la procédure de demande de levée de l'embargo en parlant d'armement anti-aérien, je dirais que moi, j'éviterais de le faire pour une simple raison, encore une fois, de tactique.
Alors, je reprends la parole.
Oui,
j'espère que je serai plus coupé. Hein. Alors, donc, je le dis ceci, je vais me répéter. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une menace aérienne qu'on ne doit pas être vigilant. Il s'agit là d'une prévoyance. Et je vous le dis parce que nous n'avons pas demandé. L'occasion nous a été offerte, nous l'avons saisie. Est-ce que dans nos demandes de levée d'embargo, nous avons demandé à ce que les armes de défense aérienne nous soient octroyées? Non, mais si l'occasion se présente, nous la saisissons et nous n'hésitons pas sur le moyen. Le problème est que dans ce pays, l'erreur qu'on a toujours commise et nous ne voulons plus la commettre, c'est qu'on attend ce que la menace soit là pour pouvoir réagir. Or, ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, que ce soit au Tchad, que ce soit au Cameroun, aucun État ne va accepter ce genre de conditions. Donc, je pense que nous sommes dans une dynamique de reconstruction de notre armée. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction de l'État de droit. Et à partir de ce moment-là, tous ces éléments-là sont importants. Nous n'allons pas exclure l'un et adopter l'autre. J'ai envie de dire, il faut être dans une dynamique qui est inclusive.
D'accord, j'ai l'impression que nous ciblons trop la communauté internationale ou encore les partenaires qui doivent peser de leur poids dans cette affaire d'embargo. Est-ce que nous ne pouvons pas justement orienter nos interventions
de nos autorités? Non, n'ayant pas peur de mots, je ne suis pas en train d'accuser la communauté internationale. Il y a un fait qui est là, il faut se prononcer là-dessus. Si aujourd'hui c'est le président Touadéra qui s'oppose à la levée de l'embargo, mais au niveau de la société civile, nous en parlerons. Ouais, aujourd'hui, le fait est là, c'est la France, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis.
Oui, ça c'est la question. Au niveau technique, ils ont fait leur part. Mais maintenant, la décision politique qu'il faut prendre et que nos autorités semblent dormir encore sur leurs oreilles.
Je ne suis pas d'accord avec l'ambassadeur quand il a dit tout, même s'il a rectifié plus tard, lorsqu'il a dit nos autorités n'ont pas pris à bras le corps la situation. Non, chaque oiseau chante selon la forme de son bec. Nos autorités ont pris à bras le corps la situation. Des procédures ont été entamées. Christian Guenembem l'a dit, même s'il ne l'a pas dit de façon très explicite, on attend effectivement du Royaume-Uni, de la France, des États-Unis, un soutien, un appui. Du point de vue technique, comme vous l'avez dit. Mais on est surpris de cette opposition et ça pose problème. Et allez-y comprendre les réactions des Centrafricains lambda qui pensent qu'effectivement, il s'agit là d'un complot. À tort ou à raison, ces Centrafricains...
C'est à tort.
C'est vous qui le dites. Hein.
Je le répète, c'est à tort. Il n'y a aucun complot.
C'est vous
là,
qui le dites, oui. Mais... au regard des faits, effectivement, ces arguments sont fondés de par leur prise de position qui ne reste qu'un point de vue.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, et on peut le regretter, mais dans toutes ces demandes, vous avez affaire à des experts. Les experts font un travail d'experts. Et moi, j'aurais envie qu'effectivement ce débat soit porté au niveau politique. Je le dis depuis le début, les experts font leur travail et on doit les remercier de ce qu'ils font. Mais le débat doit être posé à un niveau politique.
Nous espérons que la politique l'entende. Alors, un autre sujet qui a aussi beaucoup fait polémique en Centrafrique, c'est la présence russe dans ce pays. Monsieur l'ambassadeur, que répondez-vous aux accusations selon lesquelles la France ne voit pas d'un bon œil la présence militaire russe en RCA?
Ça, c'est une question assez compliquée. Nous, on a toujours estimé, en tout cas moi je l'ai dit, que les problèmes rencontrés par ce pays appelaient une réaction de beaucoup de gens. Tous les amis sont les bienvenus. Quand votre maison brûle, vous n'allez pas regarder la couleur ou les vêtements de ceux qui viendront vous aider. Donc nous, on est dans une posture très très claire. Et je crois que tous nos partenaires ici sont dans la même posture. Tous ceux qui viennent aider ce pays sont les bienvenus. Le problème qu'on a pu avoir, c'est que quand un partenaire nouveau, qui n'est pas totalement nouveau, puisque c'est un partenaire que vous avez connu dans ce pays, mais arrive, je dirais, avec des méthodes qui sont les siennes. Et surtout, je dirais, n'oublions jamais une chose. Moi, je suis représentant de mon gouvernement. Ce qu'on voit en face, avec les Russes, c'est pas le gouvernement russe. Moi, je ne vois pas le gouvernement russe et j'entends assez peu mes collègues de l'ambassade de Russie. On essaye maintenant de les faire entrer dans des débats et je dirais que ça s'est beaucoup amélioré. Je crois qu'ils ont tout à fait compris leur intérêt de se concerter avec nous et on commence à le faire. Mais ce qu'on avait en face de nous, et je l'ai dit depuis le début ça aussi, ce sont deux compagnies privées qui ont des logiques qui ne sont pas celles d'un gouvernement, qui ont des logiques qui ne sont pas celles d'une organisation internationale, qui ont des logiques qui ne sont pas celles d'une organisation non gouvernementale. Ce sont des compagnies privées qui recrutent comme elles veulent et je dirais que ce qu'on a dit au début, c'est qu'on avait besoin dans ces actions qui ont été très, très, je dirais, très perceptibles, parce qu'on est dans un petit pays, comme vous le savez, enfin petit, il est grand par la taille, mais les choses se savent, et on n'est pas en train de regarder ce que font les autres, mais tout se sait. Quand vous faites atterrir un avion à 2h du matin, ou que vous faites atterrir un dimanche après-midi, un POCO, vous allez le savoir. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est exactement ce qui se passe. Et je vais vous dire, l'avis de la France là-dessus, c'est pas ce qui compte, mais moi je vois des Centrafricains, tous les jours, qui sont dans la même position, qui diront, bah écoutez, c'est très bien, on a cet ami nouveau, mais on aimerait avoir un peu plus de clarté. Je dirais, les objections, les préventions qu'on a pu avoir il y a quelques temps, je ne dirais pas qu'elles sont complètement dissipées, mais je dirais que ça va mieux parce qu'on a fait des efforts et que nos amis russes ici de l'ambassade, ils ont fêté hier leur fête nationale et l'ambassadeur s'est exprimé là-dessus en parlant de la politique de son pays. Et j'ai envie de dire oui, monsieur l'ambassadeur, c'est un ami évidemment de dire la politique de votre pays, mais la politique d'un pays, elle doit être appliquée par un pays. Elle ne peut pas entièrement être appliquée par une compagnie privée. La politique de la France en République centrafricaine, elle n'est pas appliquée par la société Powers, qui nous fournissent des gardes de sécurité à l'ambassade, c'est pas eux. Et s'ils faisaient quelque chose pour nous, nous le saurions, nous le ferions en concertation avec les autorités centrafricaines et nous le ferions en concertation avec nos partenaires. C'est de là que sont venues les questions qu'on a pu avoir, qui ont été posées ailleurs qu'à Bangui, en disant un partenaire nouveau, oui, il est le bienvenu, comment voulez-vous ? La France ne prétend pas du tout et n'a jamais prétendu être le partenaire unique de la République centrafricaine. Je crois que les problèmes sont beaucoup trop grands pour que nous les réglions tout seuls. On a passé le relais, Sangaris est parti, a passé le relais à la MINUSCA. Et tous les partenaires, les Chinois, les Russes, l'Union Européenne, d'autres encore, citez-les-moi, y compris des partenaires de la sous-région, sont les bienvenus. Mais quand on aide quelqu'un, il faut que ça ait une certaine cohérence. Je donne un simple exemple. Vous ne pouvez pas avoir des bataillons formés à grands frais par le UTM et d'avoir une reformation après par des instructeurs russes. Je trouve que c'est une perte de temps. Vous ne pouvez pas vous engager dans une procédure de DDR et avoir des gens qui viennent à côté dire, proposer une autre forme de DDR.
À Berengo, il ne s'agit pas d'une nouvelle formation, monsieur l'ambassadeur, il s'agit juste de l'initiation à l'utilisation des armes.
Oui, mais je ne parle pas de Berengo, je parle d'autres des gens qui sont partis, se faire former au Soudan. Enfin, tout ça, c'est assez compliqué. Il y a des camions qui ont traversé la frontière avec du matériel chinois. Enfin bon, je dirais que tout ça, c'est bienvenu, mais ça peut poser des questions. Et je dirais qu'encore une fois, les questions de la France là-dessus ne sont pas primordiales. Ce qui est primordial, ce sont les questions des Centrafricains. Et croyez-moi, ils s'en posent.
Alors, quand on suit le raisonnement fait par l'ambassadeur Christian Bader ici présent, M. Christian Guinebem, y a-t-il pas lieu de s'inquiéter un peu quand l'État centrafricain sous-traite avec des entreprises privées sur cette question de sécurité nationale? Est-ce que les Centrafricains n'ont-ils pas trop vite applaudi cette présence russe?
Je pense pour ma part qu'il y a deux choses à développer par rapport à la question et par rapport à ce que l'ambassadeur a dit. La première chose, c'est quelle est la position des Centrafricains par rapport déjà à la déclaration du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian? Ça a été très très mal perçu. Pour rester dans un langage diplomatiquement correct, je dirais que ça a été perçu comme une forme de maladresse. Peut-être même, pour utiliser un terme proprement dédié, c'était presque un geste inamical. Pourquoi ? Il est allé à Brazzaville, il nous a survolé, il est allé à N'Djamena. Et entre autres questions éminentes abordées, c'était des questions relatives à la République centrafricaine.
Oui, mais ils en avaient parlé avant. Non, ils en avaient parlé avant à Saint-Pétersbourg.
J'en viens.
Voilà, donc il faut tout dire à ce moment-là.
Non, mais j'en viens. Ouais. À partir du moment où on est au cœur, il aurait fallu orchestrer la communication. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des malentendus. Vous voyez maintenant, je mets le doigt là-dessus. Il aurait fallu orchestrer les choses de manière à ce que ce ne soit pas perçu comme étant un nouveau diktat. Et je disais même récemment sur le plateau d'une station concurrente, ça a été perçu par certains comme étant le caprice d'un enfant jaloux d'un jouet qu'il a mis à la poubelle. C'est comme ça que certains l'ont perçu.
Oui.
Je vais aller plus loin. Quand on nous a dit les engagements constitutionnels, électoraux et militaires qui ont présidé à l'arrivée du président Touadéra puissent être respectés sans l'ingérence d'acteurs étrangers, ça ressemblait presque à une injonction. Ça ressemblait presque à une injonction. Et du coup, ça a braqué ceux qui aujourd'hui doivent être les partenaires de la France, de la Russie, de la Chine et autres. Quand on est dans la dynamique de redynamisation d'anciens partenariats, parce que vous l'avez bien dit, avec la Russie, c'est un ancien partenariat, bien qu'à l'époque, c'était l'Union soviétique, c'était pas la Russie en tant que telle, mais c'est un vieux partenariat qui a pris un coup parce que l'URSS s'est disloqué et qu'ils n'avaient plus les mêmes moyens en politique extérieure. Mais depuis un certain temps, ils se sont reconstitués et ils repartent à la conquête du monde. Je serais presque tenté de dire ça. Aujourd'hui, la République centrafricaine est dans une situation préoccupante. Ne nous voilons pas la face. Nous sommes loin d'être sortis de l'auberge.
Il vous reste une minute parce que nous sommes vraiment limités par le temps.
Très bien. À partir de là, pour nous, la Russie, tout comme la Chine, tout comme les États-Unis, tout comme la France, tout le monde est bienvenu pour peu que l'aide qu'ils veulent nous apporter nous apporte réellement quelque chose. Ça, c'est de deux. De trois, vous me dites ici...
Oui, et qu'il y a un minimum de transparence, on est bien d'accord. C'est pour ça que le terme ingérence a été utilisé.
Mais j'en viens.
Voilà.
Quelle est notre appréciation de cette présence, des non-dits qu'elle soulève, etc.
Moi, je vous dirais... Il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que de l'applaudir.
Moi, je vous dirais, il ne nous appartient ni d'applaudir, ni de nous inquiéter, mais il nous appartient de suivre. Il nous appartient de poser les questions sur les zones que nous considérons obscures.
Et de ne pas vous laisser dépasser par des partenaires justement dont vous ne connaissez pas totalement les objectifs ou dont peut-être les gens veulent ignorer les
objectifs. Non, nous connaissons tout à fait les objectifs.
Vous avez bien de la chance. Nous savons qu'aujourd'hui,
la Russie en tout cas est lancée dans ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une nouvelle guerre froide, que la Russie est en train d'étendre à nouveau son champ d'influence et parmi les grandes puissances, elle se livre à une guerre de positionnement. Mais à la limite, je dirais, nous en tant que Centrafricains, la seule obligation mission que nous avons, c'est d'être conscient des enjeux et de ne pas nous passer la corde autour du cou. Et
jusqu'à que ça ne soit pas aussi trop tard.
Jusqu'à ce que je,
là-dessus, on est d'accord.
Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui nous nous soyons engagés dans un partenariat qui nous amène droit dans le mur.
Merci,
nous devons continuer d'être vigilants. Nous devons continuer à observer. Mais aujourd'hui, l'aide de la Russie, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, par le biais de ces sociétés, etc. Mais c'est une aide aujourd'hui dont nous avons besoin. Vous avez dit tout à l'heure vous-même, monsieur l'ambassadeur, que la maison est en feu. On ne regarde pas à la couleur des gens ou aux vêtements qu'ils portent. On cherche d'abord à éteindre le feu.
Certes, et aujourd'hui, éteindre le feu, ça demande une certaine technique et ça demande d'être coordonné. Encore une fois, je le répète. C'est ça notre préoccupation.
Et nous le sommes.
Merci, monsieur Kressa Guélébem, monsieur Paul Cresson Beninga. Une tentative de redéploiement des forces armées centrafricaines a été contrée à Bambari par un groupe rebelle. Que vous inspire une telle situation?
Avec ta permission, il faut que je me prononce au moins sur l'affaire russe.
Juste une minute,
s'il vous permettez.
Bon, 30 secondes,
s'il vous plaît. Je voudrais dire deux choses. On est dans un jeu de ping-pong qui n'est pas intéressant entre la France et la Russie, même si on ne veut pas l'affirmer. Quand vous vous rapprochez des officiels français, ils vous diront certainement que, comme l'a dit déjà l'ambassadeur ici, que cette affaire n'est pas claire. Quand vous vous rapprochez des Russes, ils vous diront pareil. Mais...
Non, eux vous disent que c'est très clair.
Non, ils vous diront presque pareil. Mais j'ai envie de vous poser une question. Lorsque les Drian parlent des engagements constitutionnels, électoraux et militaires qui ont présidé à l'arrivée du président Touadéra, de quel engagement s'agit-il? Il y a un manque de transparence dans cette affaire. Il faut qu'on creuse aussi. Donc de deux côtés, il y a un manque de transparence. Il revient aux Centrafricains, de mon point de vue, de creuser davantage. Et au niveau de la société civile, on ne peut que prendre position du moment où on voit davantage clair. Aussi bien du côté de la France que du côté de la Russie, les choses ne sont véritablement pas claires. Il y a un manque de transparence et ça pose problème.
Je pourrais juste dire une chose, je ne veux pas vous interrompre, mais de dire, plutôt que de vous en tenir à ce que les gens disent, et c'est toujours interprétable, regardez ce que les gens font.
Oui, mais
regardez ce que fait la France dans ce pays.
Oui, monsieur l'ambassadeur.
Et regardez, plutôt que de dire ce que
Nous regardons ce que les gens font et ce que les gens disent.
Mais c'est très bien.
Et il faut analyser l'écart aussi entre le dire et le faire.
Ce qu'ils font est plus important.
Ce qu'ils font est plus important. Il y a le dire, il y a le faire. Il faut analyser les deux. Et parfois, quand il n'y a pas adéquation entre le dire et le faire, il faut l'analyser. À un moment donné, il y a le dire, il y a le faire. Christian Guénemain, je ne veux pas revenir là-dessus parce que je n'ai que 30 secondes, malheureusement.
Est-ce que c'est à la Russie ou à la France de vous expliquer les en dessous de cette déclaration de l'ambassadeur? Est-ce que ce ne sont pas aux autorités centrafricaines, à travers peut-être le ministère centrafricain des Affaires étrangères, pour pouvoir
la société civile centrafricaine est très cohérente dans ses déclarations. Lorsque nous faisons des déclarations dans ce sens, nous interpellons aussi bien la Russie, la France, que le gouvernement centrafricain. Chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire-là, parce que chacun a sa part de partition à jouer. Parce qu'on a été interpellé sur la Russie et sur la France. Si on a été interpellé dans votre question sur le gouvernement, on le fait. Maintenant, je réponds très rapidement à votre question. Une tentative de redéploiement des FACA a été contrée à Bambari par un groupe rebelle. Oui, mais vous savez, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'on nous a promis la MINUSCA, Bambari, ville sans groupe armé. Les groupes armés ont attaqué les FACA. Les groupes armés développent des velléités de résistance contre le redéploiement des FACA. Et ça va se faire et ça doit se faire à un moment donné. Parce qu'un État ne peut être fort que lorsqu'il a son armée. Et lorsque les groupes rebelles disent qu'ils sont signataires de l'accord des DDR et à un moment donné s'opposent au redéploiement des forces qui sont légales et légitimes, ça pose problème. Je crois que c'est des vérités. Mais il faut également voir dans cette affaire-là ce qui se profile à l'horizon, le dialogue. C'est des stratégies, c'est des mécanismes de surenchère, des exigences et autres.
Pour
et
je dire pense qu'on n'entend pas de bonne oreille le dialogue qui arrive?
Non, les groupes armés vont aller au dialogue. Mais vous allez voir qu'en allant au dialogue, il y aura des bruits de bottes pour surenchérir les exigences, les recommandations et autres. C'est des stratégies et c'est du déjà connu. Ce qui est surprenant, c'est qu'au niveau du gouvernement, j'ai compris qu'il n'y a pas du répondant. Il va falloir qu'il y ait du répondant pour leur faire comprendre que ces stratégies-là sont connues et c'est du déjà vu, c'est du déjà connu. Il faut développer des mécanismes de contournement.
Alors,
c'est extrêmement important.
Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous, comment vous avez vu cette situation de Bambari? On sait que la communauté internationale s'était largement mobilisée pour accompagner les autorités centrafricaines à faire de cette ville une ville sans groupes armés. On sait que l'Union européenne, dont la France fait partie, a mis un gros investissement pour rendre possible ce projet-là.
Oui, mais là aussi, ça ne suffit pas. On le voit bien. Il faut plus que ça. Quand les FACA arrivent se déployer et qu'une partie de la population locale considère que c'est une guerre d'invasion et qu'on va les tailler en pièces, je crois que là aussi, il y a un déficit de dialogue. C'est des opérations qui se préparent. On peut reparler de l'opération du PK5, c'est la même chose. Tout est interprété d'une manière totalement, je dirais, déviée parce que le travail, je dirais, d'explication n'a pas été fait. On ne peut pas arriver comme ça. Il y a des gens qui écoutent. Les gens qui sont dans ces endroits-là sont très très loin de Bangui. Vous le savez comme moi. mois. Ils écoutent des bruits et ils sont dans une logique peut-être confessionnelle qu'on leur a suggérée, qui n'est évidemment pas la bonne. Mais je dirais qu'il faut continuer de travailler. On constate effectivement les problèmes qu'on a. Pour la MINUSCA, là aussi, ça va se faire. Bon, je veux dire, ils vont être déployés. Mais je dirais qu'il y a un travail à faire, ce n'est pas uniquement au FACA d'arriver comme ça, je dirais, dans un endroit nouveau pour eux, où effectivement, dans le cadre d'une reconquête du territoire national, cette reconquête est indispensable, elle est légitime, mais elle doit être accompagnée d'explications. Et là aussi, on attend peut-être avant les FACA, peut-être la voix des politiques, de dire voilà ce qui est en train de se passer, nous venons tous ensemble, et pour essayer de faire comprendre, la seule chose qu'il faut faire comprendre à toute la population centrafricaine, c'est que les FACA, ce sont des centrafricains qui vont assurer la sécurité d'autres centrafricains. Si on rentre dans une logique d'opposition, si on dit effectivement les FACA c'est des anti-balakas déguisés avec des uniformes et qui viennent massacrer des musulmans, et que cette lecture totalement, je dirais, perverse de la situation est reprise par d'autres pays qui disent effectivement nous devons voler au secours la communauté musulmane, on n'y arrivera pas. Il faut effectivement que le message passe en disant ce que vous attendez tous à Bambari, à Bangassou, à Birao, à Ndélé, à Kagamandro, ce n'est pas les troupes de la MINUSCA, même si celles-ci font un travail remarquable, ce sont des centrafricains. Ça aussi, je crois qu'il faut simplement l'expliquer.
Merci monsieur Christian Pader. Fin de ce chapitre sécurité, nous tombons maintenant au dossier politique. Politique, un diamantaire belge, Peter Meus, ancien président de la Bourse du Diamant de Dubaï, est nommé conseiller du gouvernement. Ce conseiller travaillera sur tout ce qui touche au processus de Kimberley, selon le ministre des Mines. Dans le même ordre d'idées, l'ancienne gloire allemande du tennis, Boris Becker, qui serait nommé par le chef de l'État, attaché sportif, culturel et humanitaire de l'air, si auprès de l'Union européenne, tente de se prévaloir de l'immunité diplomatique pour échapper à des procédures judiciaires pour dette au Royaume-Uni. Monsieur Christian Guenebem, vous êtes politique. Comment expliquer cette pratique de nomination des personnalités étrangères, à tort ou à raison, à des postes de responsabilité en RCA sans une enquête préalable de leur moralité?
Dire que les enquêtes de moralité ne sont pas pratiquées avant de nommer des personnalités étrangères à des postes de conseil, je ne sais pas si c'est une vérité, mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas nouveau, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays, de nommer des personnes à des postes de responsabilité, que ce soit de conseil technique, que ce soit de représentation, soit pour utiliser leur carnet d'adresse, soit pour utiliser leurs compétences techniques sur des questions pointues. Et donc, il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Maintenant, que ces personnes, après avoir été nommées, aient des déboires avec la justice, encore faille-t-il que sur la question de Boris Becker, la lumière soit faite, parce que d'un côté on nous dit il est nommé, d'un côté on nous dit il n'est pas nommé, il a un passeport diplomatique, c'est un faux document. Et moi je ne saurais comment m'exprimer parce que je n'ai pas l'information. Maintenant sur la question de Peter Meus, moi je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel à cela. C'est un monsieur qui a dirigé la Bourse du Diamant à Dubaï, c'est un monsieur qui a manifestement un carnet d'adresse, qui a manifestement de très grandes compétences dans ce domaine. S'il peut apporter quelque chose au gouvernement centrafricain qui, rappelons-le, est toujours sous un embargo partiel du processus de Kimberley quant à l'exportation de nos diamants, ça peut être quelque chose d'appréciable. C'est ce que je peux vous dire.
Merci. Un autre point également, politique toujours, c'est ce dialogue en préparation. Un dialogue entre les autorités centrafricaines et les groupes armés est en préparation par l'Union africaine. Vous l'avez évoqué déjà, M. Paul Christian Bénigan, mais des voix s'élèvent déjà au sein de la classe politique et la société civile pour dénoncer son organisation. Vous, qu'est-ce que vous reprochez à l'organisation, n'est-ce pas, de ce forum?
Nous avions organisé du lundi 18 au mardi 19 une conférence citoyenne à l'issue de laquelle un manifeste a été rendu public. Et dans ce manifeste, nous avons pris position. De deux choses l'une, soit la société civile opte pour une politique de chaise vide, soit la société civile participe, mais de quelle manière? Et nous avons écarté la première hypothèse, celle qui consiste à adopter la politique de la chaise vide, parce que ça ne nous fait pas gagner. En revanche, nous pensons que ce dialogue entre le gouvernement d'une part et les groupes armés d'autre part ne peut pas être la solution. On ne peut pas aller discuter de ce pays sans le peuple centrafricain. C'est impensable. C'est pourquoi au niveau de la société civile, nous pensons que la société civile doit prendre part avec une voix délibérative. Mais au-delà de cette exigence, parce que pour nous c'est une exigence, la société civile doit prendre part à ce dialogue avec une voix délibérative. Au-delà de cette exigence, il faut le dire aussi que nous sommes très réservés et nous avons refusé le fait que ce dialogue soit délocalisé. Le panel nous dit clairement que les groupes armés estiment qu'ils ne seront pas en sécurité étant en Centrafrique. Mais après le dialogue, ils veulent un gouvernement d'union nationale. Ils veulent une nouvelle transition. Mais ils ne reviendront pas travailler dans ce pays. Ça va être compliqué. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. À un moment donné, il faut qu'on se regarde en face, qu'on se parle dans notre pays. Il ne faut pas toujours délocaliser pour se faire infantiliser, passez-moi l'expression, les initiatives qui concernent la République centrafricaine. Ça, c'est la position de la société civile.
Mais quelle sera votre alternative si jamais le schéma du panel s'impose?
Lequel?
Qui consiste à tenir ce dialogue ailleurs, en dehors du territoire
centrafricain. Jusqu'aujourd'hui, nous allons nous battre autant que faire se peut pour que la société civile prenne part avec voie délibérative et que le dialogue ait lieu en République centrafricaine. Ce qui laisse penser que nous écartons l'hypothèse selon laquelle ça va être délocalisé et que la société civile ne va pas prendre part ou à défaut prendra part avec voie non délibérative.
Alors, M. Kassabader, comment la France voit ce dialogue qui arrive?
Moi, je ne me prononce pas là-dessus. Je dirais que moi, en tant qu'ambassadeur de France, je préférerais nettement que le dialogue ait lieu en République centrafricaine, plutôt qu'il soit délocalisé. Parce que concernant le premier chef, il n'y a aucune raison de délocaliser les dialogues. La délocalisation des dialogues, on sait très bien ce que ça donne. On passe 6 mois ailleurs, on signe des accords et rien n'est appliqué. La France appuie cette initiative. Elle l'appuie résolument parce que moi, je dirais qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais il faut très clairement comprendre de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas du tout, comme on aura pu le comprendre, d'aller donner une espèce de forum au groupe armé, de les écouter et de les traiter comme s'ils étaient eux aussi un élu légitime. Ils n'ont aucune légitimité puisqu'ils n'ont pas été élus et qu'ils ont tous refusé de participer à l'élection qui a amené le pouvoir actuel en place. Donc, ils n'ont pas été là. Ce qu'on est en train de faire, c'est de dialoguer avec eux. Ce que je remarque, moi, c'est que la plupart de leurs revendications, je pense que vous l'avez vu tous, sont des revendications que le gouvernement centrafricain et les donateurs pourraient signer demain. Mais il y a quand même une certaine ironie d'entendre, par exemple, parmi les revendications, la paix, le désarmement. On a envie de dire, est-ce que c'est bien sérieux? Moi, je dirais qu'il y a 2 revendications qui sont apparues et dont il faudra un moment parler. Parce qu'elles sont apparues, je dirais, par la fenêtre. Elles sont entrées. C'était effectivement la gestion des ressources locales. Ça, c'est une vraie question, puisqu'il s'agit vraiment de cela. Ces groupes ne survivent que parce qu'ils se livrent à des prédations sur les ressources locales. Et la deuxième question qui a été posée, là aussi c'est une question extrêmement délicate que le président Touadéra lui-même avait exclue, c'est l'impunité. C'est 2 choses. Comment préservons-nous nos ressources et donnez-nous l'impunité? La préservation des ressources est un vrai sujet, parce qu'encore une fois, ces ressources sont des ressources qui appartiennent au peuple centrafricain. Elles sont gérées par des groupes qui n'ont, à mon avis, pas de légitimité. Mais on ne les écartera pas de cette prédation si on n'engage pas avec eux un dialogue. La question de l'impunité, encore une fois, la position de la France est très claire, on l'a dit depuis le début, c'est une affaire centrafricaine. Ce sont les autorités, le peuple centrafricain, et les victimes d'ailleurs, qui décideront s'ils veulent de l'impunité ou pas. Je dirais qu'il y a un des avantages aussi de cette initiative africaine, pour moi, qui est très clair, c'est que vous avez dans cette initiative africaine des pays de la sous-région. Et vous savez, comme moi, que les pays de la sous-région ont un rôle à jouer. Si les pays de la sous-région se désintéressent de la situation, s'ils ont, et je n'ai aucune preuve qu'ils en aient, des stratégies particulières à l'égard de ce qui se passe, ça ne fonctionnera pas. Il faut que les gens comprennent que demain, une République centrafricaine stable et prospère avec des ressources qui soient bien gérées et qui aillent à la population sera de l'intérêt de toute la sous-région. S'il y a des gens dans la sous-région qui pensent le contraire, ils se trompent. Ils se trompent et ça aussi c'était l'occasion d'avoir des gens, et nous on l'avait dit à l'époque, c'est très bien d'avoir des experts et des panélistes, mais nous aimerions que ces experts et ces panélistes représentent très directement les pays d'où ils proviennent, c'est-à-dire qu'ils aient vraiment l'appui des chefs de l'État. Vous l'avez dit tout à l'heure, mon ministre a rencontré donc le président tchadien, il a rencontré le président congolais. Ces gens-là ont un rôle énorme à jouer, mais c'est évidemment vous qui devez les voir. Ils ont un rôle à jouer. L'initiative africaine permettait aussi d'avoir à bord les gens de la sous-région, des gens peut-être un peu plus éloignés, mais qui sont intervenus. Les Angolais, à un moment donné, avaient une opinion aussi. Je dirais que là, c'est comme un peu de pour aider le pays. Tout le monde est bienvenu, mais il faut que cette initiative soit coordonnée. Et l'idée qu'on a, c'est pas du tout de faire droit systématiquement aux revendications des groupes armés, surtout si ces revendications ne sont pas constitutionnelles. Encore une fois, il ne s'agit pas, et vous l'avez dit, d'entrer dans une troisième transition. On ne fait pas des élections au prix qu'elles ont coûté. Quand je dis prix, ce n'est pas un prix financier, c'est les efforts qu'ont fait les Centrafricains pour entrer dans une troisième, une quatrième ou une cinquième transition. Ça n'est plus l'époque de la transition. On ne fait pas de transition avec un gouvernement élu, mais ça n'exclut pas un certain degré d'inclusivité dans l'exercice du pouvoir. On peut très bien avoir à bord des gens, encore une fois, qui sont des élus. Je dirais que tout le monde est bienvenu pour exercer le pouvoir, sauf des gens qui ont des armes en main.
Monsieur Kassabader, l'ambassadeur de France, monsieur l'ambassadeur, vous confirmez que vous êtes réellement en fin de mission?
Cette fois-ci, oui. Quand on l'a annoncé en février, je ne le confirmais pas parce que ce n'était pas vrai.
Ouais.
Mais là, à l'été, j'arrive bel et bien en fin de mission, au bout de 2 ans de séjour dans ce pays.
Et donc, ce serait votre dernière participation à un débat citoyen?
J'espère que non. On a encore le temps d'ici là. On peut participer à tous les débats auxquels vous voudrez bien me convier d'ici là.
Merci. Et donc, officiellement, peut-être si jamais il y a pas une pareille occasion. On vous dit, voilà, au revoir.
Un grand merci à vous.
Merci, monsieur Christian Bada. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de France en Centrafrique. Merci à vous, monsieur Christian Guenebem, porte-parole du parti KNK. Et merci à vous, monsieur Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Fin de ce débat, Patara sur Radio Ntekeluka, consacré à l'actualité politique, sécuritaire et judiciaire en République Centrafricaine. Merci à tous les auditeurs qui ont accepté de nous suivre depuis leur poste récepteur. Guy Rémi Aminindi à la technique, Hippolyte Marwa à l'animation. Vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre thématique.
Patara, l'émission politique de Radio Ndekeluka, réalisée par Hippolyte Marbois, tous les samedis à 10h05 en français et 18h en sango, avec rediffusion tous les dimanches à 10h.